Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre heure de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avec moi cette semaine, j'ai mes amis Nathan et Hugo. Salut les boys.
Salut Al, ça va bien?
Ça va bien toi Nathan?
Ah ça va, il fait beau, fait que ça l'aide à aller.
Fait frais dans Moses par exemple?
Ben non.
On apprécie le soleil, on apprécie mal le froid, mais tout va bien quand même.
Les boys, on va jaser de quoi cette semaine?
Pour ma part, je vais présenter deux classes de la nouvelle édition de Donjons & Dragons, donc le barde et le cléric.
Moi, je continue sur mes petites capsules du garage. Cette semaine, on va parler de jeux de puzzle d'Escape Room.
Et moi, pour vous donner un petit rince-bouche, je vais vous présenter un jeu qu'on n'a pas encore dans la Ludo du Club, mais qui est commandé, qui s'appelle, c'est un jeu d'auction, qui s'appelle Ra, comme le dieu égyptien du commerce et de la prospérité. On commence tout de suite avec la chronique du garage à Hugo.
Et oui, cette semaine, je vous parle de jeux de puzzle, jeux de style escape room, où le but va être, très très généralement, de trouver la solution, la manière de s'échapper, de résoudre la situation. Contrairement à un escape room un peu plus standard, que j'invite tout le monde à aller faire, personnellement, j'adore ça, là, dans lequel vous devez trouver une manière de sortir de la pièce, d'où le titre « Escape the Room ». Dans les jeux qui vont reprendre un peu ce concept-là, ils vont souvent, étant donné que ça ne demeure qu'un jeu, pouvoir sortir un peu du contexte de s'échapper d'une pièce et vous faire vivre un scénario un peu plus complet.
C'est plus proche d'une aventure avec des puzzles puis des énigmes à résoudre qu'un escape room, en fait.
Ouais, exactement. Ça va être un petit scénario. Ils vont souvent reprendre la contrainte de temps une heure, qui est le contexte général d'un escape room.
Puis généralement, il va y avoir un thème aussi autour du truc, là. Genre, ouais. Sort de la prison, sort de la pièce en feu ou un truc comme ça, là.
Mm-hmm. Trouve le trésor pirate pour vraiment les sortir d'une pièce. Là.
Mm-hmm. Exactement. Donc, des jeux qui prennent ce style-là, il y a Exit, le plus populaire que nous, on a au club, c'est Unlock. Il y a Escape Room The Game. Time Stories peut aussi en faire partie. Et quelques autres. C'est quand même un genre qui a explosé dans les dernières années. Pratiquement tous les développeurs de jeux de société ont tenté leur propre version.
Ben avec la popularité des escape games, on peut comprendre l'explosion là, au niveau du jeu de table et d'aller exploiter un nouveau marché là, qui est différent des escape games.
Oui, absolument.
Puis en même temps, ben, on voit que c'est super populaire parce qu'il y a pas mal toujours une ou deux boîtes de Unlock en location permanente au club. Là. Fait que mm-hmm. C'est probablement... Prendre la série au complet, je vous dirais que c'est un bon moteur.
Donc, au niveau du concept du jeu, c'est assez straightforward. Vous devez résoudre les puzzles et tenter de résoudre le scénario dans le temps imparti. Cependant, c'est facile, comme dans les escape rooms, de manquer de temps ou de manquer des indices, etc. Donc, laissez-moi vous présenter quelques stratégies pour aider à augmenter vos chances de réussir. Tout d'abord, dès que vous recevez la boîte, Le temps commence, on va dire ça de même. Vous n'avez peut-être pas encore starté le chrono, mais vous pouvez déjà recevoir des indices et des détails qui vont vous aider à résoudre les puzzles. Souvent, il va y avoir directement sur les boîtes, dans les livres des règles, dans les indications de placement, des petits détails qui vont avoir de l'importance plus tard dans l'histoire. Au niveau où vous allez ouvrir la boîte, normalement, ces détails-là ne signifieront rien pour vous, mais ça vaut la peine de quand même regarder sur tout ce que vous recevez, des détails qui pourraient sortir de l'ordinaire. Deuxièmement, vous pouvez prendre en note, tant qu'à avoir un jeu de table, aussi bien sortir un carnet de notes, tenter de faire des liens entre les choses, discuter si jamais vous ne jouez pas seul parce que c'est souvent plus plaisant de jouer à plusieurs. Si jamais il y a plusieurs détails qui sortent de l'ordinaire, n'hésitez pas à en parler aux gens qui vous entourent.
Là, c'est le temps de sortir votre panneau, vos pins, vos bouts de laine, là, puis relier des affaires.
Puis de pas tout réfléchir dans votre coin. Là. Souvent, plusieurs cerveaux pour résoudre un problème, c'est plus efficace.
Je peux-tu me permettre d'en donner un?
Vas-y.
Quand vous découvrez une information, c'est important de la communiquer avec les autres. Et ne pas juste dire « Ah, un chiffre par rapport, là, je le mets dans la filière 13. » Puis là, une demi-heure après, on cherche un chiffre, puis il est dans la filière 13, vous l'avez totalement oublié. Si vous dites « Ah, il y a un chiffre là, regardez. » Puis là, ça s'applique aussi au vrai escape room. Hein?
Oui, absolument. Les trucs qu'on donne ici sont très souvent utilisés pour les escape rooms. On vous recommande par la suite, une fois que le scénario est commencé, vous allez avoir le compte à rebours qui va démarrer. Vous allez avoir votre temps. Vous allez, dans les grandes majorités des scénarios, avoir à sortir des cartes qui vont représenter la pièce, les objets que vous allez avoir devant vous, vos différentes possibilités, etc. Et ce sera sur ces cartes-là que vous allez avoir à résoudre les puzzles, que vous allez devoir fouiller pour des détails, que vous allez devoir trouver les indices.
Des fois, ça prend plus qu'une carte ou plus qu'une combinaison de cartes pour trouver tous les indices nécessaires aussi.
Oui, vous n'allez pas nécessairement avoir toutes les informations. Vous n'allez naturellement pas avoir toutes les informations dont vous avez besoin dès que vous ouvrez la boîte, mais à force de résoudre des petits détails, vous allez en obtenir de plus en plus. Voici des informations que vous avez à repérer. Des erreurs d'impression dans un escape room, c'est souvent... pas des erreurs d'impression.
Elles sont voulues.
Si quelque chose est mal écrit ou s'ils ont mis des numéros à la place de mettre des lettres, ils ont remplacé un A par un 4, ce genre de choses, notez-le, dites-le aux autres, c'est souvent pas une erreur d'impression. Si jamais vous voyez qu'au verso d'une carte, donc, par exemple, dans la grande majorité des jeux, toutes les cartes vont avoir au verso simplement un numéro qui indique le numéro de la carte où est-ce qu'elle est censée être rangée dans la boîte à la toute fin, avec un petit verso assez mât. Si vous voyez que le verso d'une carte est différent des autres, ça peut valoir la peine de le mentionner. Ce ne sera pas nécessairement pertinent initialement, mais qui sait, peut-être que ça va donner une image à la toute fin si vous virez les cartes de côté, par exemple, et ça va vous dire comment assembler une pièce. Ce genre de choses. Dans le cas particulier de Unlock, qui en est un des plus populaires qu'on a au club, vous allez utiliser un cellulaire, donc qui va vous permettre de résoudre certains puzzles de manière un peu plus numérique, virtuelle.
Il y a une application mobile, ça peut être une tablette.
Oui, absolument. C'est une application. Un des points que je me suis fait soulever était que le cellulaire va représenter un objet dans chacune des parties, que ce soit un téléphone ou un appareil photo technologique ou de quoi de très ancien. Il va représenter quelque chose quand vous allez faire les actions sur votre appareil. Donc, réfléchissez à ce que votre cellulaire représente dans le scénario que vous vivez et comment est-ce que, si vous étiez dans un escape room dans la vraie vie avec cet objet-là, comment vous pourriez l'utiliser? Parce que ce ne sera pas toujours des puzzles simplement sur les cartes. Ça va souvent vous demander de la réflexion hors de la boîte et réfléchir à comment votre cellulaire est utilisé et comment vous pourriez l'utiliser autrement peut vous emmener à résoudre certains puzzles. Enfin, on va souvent vous demander de défausser des cartes. Donc, quand vous allez passer d'une pièce à l'autre ou si jamais vous changez de lieu, on va vous demander de souvent défausser certaines cartes, d'aller en chercher des nouvelles. Tant qu'une carte ne vous a pas été explicitement dite d'être défaussée, ça signifie généralement qu'elle peut encore être utile. Donc, même si c'est une carte que vous avez depuis que vous avez ouvert la boîte, ou que c'est un petit objet que vous avez reçu depuis que vous avez ouvert la boîte, même si vous l'avez utilisé, tant que ça ne vous a pas été dit de le défausser, défaussez-le pas, oubliez-le pas.
Vous pouvez les laisser sortir comme ce qui est déjà utilisé, mais pas demandé d'être défaussé. Vous le laissez sortir au centre de la table pour que tout le monde y ait accès. Puis, comme, finalement, avec la carte que je viens de tirer, ben on a besoin de cette carte-là, maintenant.
Mm-hmm. Tu as fait les stratégies gagnantes. Y a-tu des pièges aussi qu'on peut revisiter en revenant de la pause?
Absolument.
On va aller faire notre petite pause et on vous revient dans quelques minutes. On est de retour en onde à Ludo Radio, votre émission hebdomadaire de discussion jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avant de partir à la pause, Hugo nous présentait les stratégies gagnantes pour gagner dans des jeux de style Escape Room comme Unlock.
Effectivement, donc on discutait de bien regarder vos cartes, de bien répartir les tâches, de bien faire attention à ce que vous avez devant vous, que les objets que vous recevez, que ce qu'ils représentent dans l'univers pour avoir un peu de out-of-the-box thinking, réfléchir hors de la boîte. Dans les dernières stratégies que je peux vous recommander avant de tomber dans les pièges, si jamais vous vous faites mentionner à quelque part que vous avez besoin d'une carte que vous n'avez pas encore reçue ou que vous avez besoin ou que ça mentionne de défausser une carte, que vous n'avez jamais reçu, réfléchissez à comment vous auriez pu obtenir cette carte-là, soit en réfléchissant à ce que, si ça veut dire, par exemple, ça vous disait que vous aviez besoin d'un couteau, comment vous auriez pu aller le chercher dans le scénario à quelque part, ou est-ce que c'était possible, ou si jamais ça vous disait de défausser une carte que vous n'avez jamais reçue, réfléchissez à comment vous auriez pu aller le chercher, parce que parfois, il va y avoir d'autres cartes au même endroit que vous n'avez pas encore été chercher qui peut aussi vous aider. Finalement, une belle quote qui est sortie hier par Al que je vais reprendre parce que ça reste quand même valide. Les pires choix à première vue ne sont pas toujours les pires choix à choisir dans les jeux d'Escape Room.
Merci Baldur's Gate 3.
Je vais vous mettre un contexte, c'est Baldur's Gate 3, les niaiseries qu'on peut faire dans ce jeu-là et qui ça finit toujours pas si pire finalement. Par exemple, se laisser torturer par un prêtre de Léviathan, la déesse de la douleur. Ou se faire arracher un œil avec un pic à glace.
Donc, parfois, ça va être contre-intuitif de, par exemple, dire que oui, je veux discuter avec le criminel armé et dangereux. Oui, je veux me lancer sur la personne qui s'apprête à me tirer dans un scénario. Mais c'est parfois ce que vous devez faire. Parce que il va souvent y avoir des mécaniques de punition dans les board games d'Escape Room ou si jamais vous faites un choix que vous échouez un puzzle, vous allez avoir une chance de le reprendre, mais vous allez perdre du temps sur votre chronomètre.
Piège à éviter.
Tout d'abord, comme on le mentionnait durant la pause avec Nathan, si jamais vous avez un outil technologique, faites attention à comment le manipuler parce que vous allez parfois avoir une quantité limitée de chance avant qu'on tombe justement dans les punitions. Donc, ne gaspillez pas inutilement des chances en cliquant sur des touches avant de savoir ce qu'ils font.
En anglais, il y a une expression, on appelle ça un « red herring ». Ça, c'est un faux indice. Quand vous travaillez avec un indice qui est gros, qui est fait, il est peut-être juste là pour vous ralentir.
Oui, c'est pas. Ils vont justement tenter d'avoir des pistes, des fausses pistes pour faire perdre du temps.
Si vous tournez en rond depuis 5 minutes avec la même affaire, changez votre focus. Mm-hmm. Changez votre façon de voir le problème. Pas toujours facile à faire.
Pour accélérer vos changements de pièces lorsque vous réussissez à traverser d'un scénario à l'autre, ça peut être tentant de dire, lorsque je reçois la boîte, je mets les cartes en plein centre, je les ouvre une à la fois lorsque le scénario me le dit. Mais ça peut être aussi extrêmement pertinent de dire, OK, je sépare les cartes en paquets, une personne est attitrée aux cartes et à toutes les fois qu'une carte se fait dire d'être sortie, ben, la personne attitrée va pouvoir beaucoup plus rapidement aller les chercher que si tout le monde y va par elle-même lorsqu'une carte le lui dit.
Un rôle.
Mm-hmm. Ben, tout le monde peut avoir aussi un petit paquet puis faire comme oui, bon que, ben, moi mon paquet commence là, fait que si je sais que la carte me demande que 20 puis ben je commence à 32, moi j'ai pas à chercher. C'est la personne qui est dans le range de 20 qui va aller chercher pour la
c'est
carte.
C'est un bon conseil aussi quand vous jouez à des jeux de type Legacy.
Oui.
Chacun son rôle. Comme ça on se pèle pas sur les pieds, on fait pas les choses deux fois puis on s'assure que toutes les tâches sont faites.
On l'a mentionné dans les stratégies, ça retombe dans les pièges et ça va pas mal clore notre petit scénario. discutez entre vous. Si vous jouez à plusieurs, ça reste la clé. La grande majorité des solutions proviennent du fait que quelqu'un d'autre a déjà trouvé la réponse que vous cherchez, mais ne vous l'a pas encore mentionné parce qu'il cherche un autre problème que c'est vous qui avez la réponse que vous lui avez pas mentionné. Personne ne bouge.
Oui, c'est important que ça soit pas un monologue aussi, qu'il y ait plusieurs personnes qui interviennent, puis que tout le monde ait sa chance de parler. Là.
Donc, n'hésitez pas à communiquer entre vous. Si vous jouez à plusieurs, ça va être... c'est vrai que ce soit dans le jeu de société Escape Room ou dans un vrai Escape Room, que la communication. La communication, c'est la clé, guys.
Hey, merci, Hugo. Prochain segment de l'émission, je vais vous présenter le petit jeu Raw. Vous allez voir, ça sera pas long. Alors, qu'est-ce que c'est Raw? Raw, c'est un vieux jeu qui a été réédité en 2022, je veux dire, qui est un jeu essentiellement d'encan. Alors, ça, c'est très simple, vraiment pas long à expliquer. Vous avez chacun un board avec trois pocs dessus, et les pocs ont des valeurs numériques. Écoute, c'est des pocs.
Ouais, oui, non, je sais. C'est,
Les pocs sont numérotés de 1 à 21, et chaque, ça joue de 1 à 5, non, excusez, de 2 à 5.
Oui, je vais faire des encans avec moi-même. Oui,
c'est ça, il n'y a pas de mode solo, malheureusement, dans un jeu d'encan. En fonction du nombre de joueurs, vous avez un board différent. Les boards sont passés au hasard, puis vous pouvez avoir un board. Comme là, j'ai un board pour moi qui est un board à ces 5 joueurs, où j'aurai la POC numéro de valeur 12, la POC de valeur 11 et la POC de valeur 6. Et essentiellement, comment le jeu fonctionne, c'est quand c'est votre tour, vous avez trois actions que vous pouvez faire. Vous pouvez piger une tuile. Vous pouvez utiliser une tuile spéciale, mais il n'y en a pas beaucoup, fait que c'est pas une action qui arrive souvent. Ou vous pouvez invoquer le dieu rat. Et qu'est-ce qui se passe quand on invoque le dieu rat? Toutes les tuiles qui ont été pigées sont mis à l'encan. Et vous avez, comme c'est la personne qui a déclenché l'encan a le dernier bid, la dernière soumission, le prochain joueur dit, ben, il décide s'il bid ou non. Et s'il bid, il choisit une de ses trois pocs, puis il la met dans le milieu.
Donc, les pocs ont toute une valeur vont de 1 à 20.
1 à 21. Et, 20? Oui, c'est 20. Mm-hmm. Bon, sont pas dans le fond, quand vous avez trois pocs, vous pouvez décider de mettre celle qui est la plus basse, celle qui est dans le milieu ou celle qui est la plus haute. Celle qui est la plus haute, dans le fond, si vous êtes celui qui est la moins haute, ben c'est pas nécessairement un super gros risque. Fait que c'est toute une question, ce jeu-là, de gérer risk and rewards. Mm-hmm. Et comme vous avez trois chances de gagner des encans, dans le fond, on vous encourage à y aller, puis à y aller un petit peu quand c'est une petite. Puis dans les tuiles qu'on va piger, il y a des tuiles qui vont déclencher les encans aussi.
Il y en a beaucoup. Pour les trois expériences du jeu que j'ai, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup quand tu regardes le nombre.
C'est à peu près 1 sur 6.
C'est ça. Ça se pige souvent quand même.
Ça peut se piger souvent si la luck n'est pas de votre bord, vous pouvez avoir des encans où il n'y a absolument rien sur le board. À quel moment, ou si vous avez déclenché un encan, ben personne bid, vous êtes obligé de bider si vous êtes le dernier et il n'y a pas eu de bid. Fait que souvent, ça va être une façon de faire partir la POC la plus basse. Mais la twist, c'est que vous avez mis une POC, vous ramassez, en plus de l'encan, si vous gagnez, la POC de l'encan d'avant.
C'est-à-dire que tu peux échanger tes petites valeurs pour tes grosses ou, si tu n'es pas chanceux, des grosses valeurs pour des petites.
Exactement. Alors, si vous planifiez pas bien votre move, vous pouvez vous ramasser au round 2 avec la POC 1, 2, 3.
Et ne plus jamais regagner d'encan pour le restant de la partie.
C'est ça. Le jeu se passe en 3 manches et il y a un nombre d'encan en fonction du nombre de joueurs. Donc, à chaque fois que quelqu'un pige une tuile en camp ou invoque le Dura, on avance le marqueur sur le petit truc. Et c'est impossible si on joue à 3, 4, ou c'est impossible que tout le monde puisse gagner ses encans. Il y a à peu près un quart des pocs qui vont rester à leurs joueurs. Fait que ça prend en plus de balancer risk and reward, il faut balancer agression et conservation de ressources.
Et un petit peu de manigance aussi pour essayer de pousser l'autre à aller bêter parce que c'est bon ce qui est au milieu. Puis...
Dans les jeux, simplicité de règlement versus profondeur, moi je pense que c'est un chef-d'œuvre extraordinaire ce jeu-là parce que facile à expliquer, extrêmement difficile à maîtriser. J'ai une vingtaine de games derrière la cravate. Je vous dirais que j'ai commencé à gagner de façon fiable mes 4-5 dernières games. Puis dans ces 4-5 dernières-là, il y en a une, j'ai eu moins deux.
Ouais, parce que c'est possible d'avoir des points négatifs si c'est tu planifies mal. Comment tu fais pour avoir des points?
Ben, dans le fond, il y a 6 catégories de tuiles que vous pouvez avoir qui vont vous donner des points. Il y a 3 catégories qui vont être là tout le long de la game et qui vont scorer en fin de game. Et il y a 4 catégories qui vont scorer à mesure, à chaque fin de manche. Mais il y a des catégories où, si vous êtes celui qui avait le moins de tuiles de ce style-là, vous perdez 5 points. Donc, on commence à 10 points. Puis, si ça va mal, la première manche, ben, on n'a pas ces tuiles-là, ben, on perd 5 points. Oups!
Ouais.
Il y a aussi des tuiles qui vont vous faire perdre des points. Les tuiles de Pharaon, dans le fond, qui sont des tuiles permanentes, qui restent, mais à la fin de chaque round, ces tuiles-là vont compter. Puis ces tuiles-là aussi, si vous êtes celui qui en a le moins, ben, vous perdez 2 points. Fait que, ben, si j'étais pas chanceux, j'étais pas capable d'avoir mes tuiles, j'étais pas capable de gagner mes encans pour plein de raisons, là. Puis, ben, c'est ça, je me suis ramassé dans le négatif. Mais c'est cette partie-là, c'était un massacre à tronçonneuse. Je pense que la personne qui a gagné a gagné avec 3 points. Là. Fait que...
Oh, OK, ouais, ouais c'est une mauvaise partie pour tout le monde, là. Ouais. Les dieux étaient pas avec vous, non, comme on dit. Non, les dieux étaient pas avec
nous. Il y a beaucoup de tuiles aussi que c'est pas des tuiles ni qui déclenchent les encans, ni des tuiles qu'on peut placer, mais des catastrophes naturelles. Alors, quand ça arrive, ben, on peut perdre des tuiles qu'on a déjà placées sur nos trucs. Fait qu'on nivelle par le bas. Fait que des fois, rien à voir.
C'est un effet symétrique qui vont s'appliquer à tous les joueurs.
Exactement, ouais.
En termes de stratégie, il faut mentionner, si jamais vous avez des tuiles de haute valeur, eh bien, vous êtes incité de ne pas déclencher d'encan afin qu'il y en ait de plus en plus devant vous pour que lorsque l'encan se déclenche, vos tuiles d'haute valeur puissent ramasser beaucoup de tuiles d'un seul coup.
Parce que les pocs qu'on utilise pour bider sont publics. Mmh. Fait qu'on sait qui a la poc la plus forte. Fait que plus l'encan va continuer, plus le pot va grossir essentiellement, plus la personne qui a la grosse poc, ben, ça lui avantage.
Inversement, si vous en avez de moins grande valeur, vous pourriez choisir de déclencher des encans de moins grande valeur pour que les gens qui ont des pocs d'autres valeurs choisissent de ne pas bêter et que vous ayez plus de chances de les gagner vous-même.
Il y a une seule poc en jeu de laquelle la valeur n'est pas connue et c'est celle pour laquelle vous remplacez. Comme la poc qui est en haut.
Ben, elle est connue si vous avez une bonne mémoire.
Oui, mais c'est ça, je veux dire, elle n'est pas révélée. Mm-hmm. C'est faut que tu te souviennes, c'est qu'est-ce qui a été bêté la dernière fois qu'il y a eu un encan, puis qu'est-ce qui a gagné.
On va aller au sport, puis au retour, on va faire une petite conclusion. Et Nathan va pouvoir nous expliquer ces deux classes de Donjons et Dragons. De retour à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avant de quitter, on vous présentait le jeu Raw. On m'a gentiment rappelé que j'ai pas donné les statistiques BGG, alors les voici. Le jeu overall est 128e, un 7.7 de ranking, une difficulté de... Ah, je l'ai pas.
De 2.32. Une difficulté de 2.32.
Oui, je l'ai. Merci, Hugo.
Sur 5, donc pas trop complexe.
Non, vraiment pas complexe. Comme j'ai dit, c'est un jeu très simple à apprendre et très difficile à maîtriser. À part de ça, ben, ça environ une cinquantaine de dollars si vous êtes capable de trouver. Bonne chance parce que ils ont fait un reprint ça, l'année passée. Il est disparu. Puis ils l'ont pas fait un reprint. C'est un des multiples jeux qui est joué au championnat mondial là, des jeux de société à Vegas. Au mois de septembre. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, mais...
Il y a sa place dans ces tournois-là. Ouais, là. C'est clairement un jeu à tournoi puis à compétition.
C'est un jeu à stratégie. Là. C'est pas un jeu... Il y a beaucoup de hasard, par exemple. Fait que moi, c'est le bout que des fois, il me fait désespérer et saigner du nez. C'est comme, bon, trois tuiles dans le camp en même temps, je serais pas capable, j'ai pas une bonne tuile, je serais pas capable d'aller chercher des tuiles pour marquer cette ronde-là. Mais c'est un jeu qui demande énormément d'adaptabilité. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter à des conditions changeantes, je vous conseille de trouver autre chose. Des commentaires, les boys, vous avez joué les deux?
Moi, personnellement, j'avais bien aimé. Pour ce qui est de la simplicité des règles, en effet, je sortais d'un gros, gros jeu bien lourd et bien complexe avant de jouer à Ra.
Terra Mystica.
Non, Terra Mystica et Ark Nova. Ce sont les deux jeux que j'ai joués avant de jouer à Ra. Donc, ouais, j'avais très, très mal à la tête et j'ai quand même eu beaucoup de plaisir et j'ai compris relativement facilement les règles.
Pour y avoir joué de mon bord, les règles étaient effectivement très simples, mais il y a quand même plusieurs pièges à ne pas tomber, comme mentionné, de péter, de bider au bon moment, parce que sinon tu te ramassais avec des mauvaises tuiles. Je suis tombé là-dedans dès la première partie et je n'ai jamais pu m'en sortir.
Oui, je m'en souviens. Je pense que t'avais un 5, un 2, un 4, un 5.
C'est surtout que tu ne peux pas déclencher dans le camp si tu piches. S'il n'y a pas de tuiles et que tu piches, tu peux pas dire je déclenche un encan à pas de tuile. Faut que ce soit la tuile qui déclenche l'encan.
Effectivement. Puis ben là, si t'as le gars juste avant toi qui est chien, puis qui te connaît, puis qui fait exprès de partir des encans parce qu'il veut pas que t'en partes pour aller chercher une meilleure tuile, il y a beaucoup d'interactions de joueurs possibles. Ça semble pas un jeu à grande interaction de joueurs, mais c'est essentiellement juste ça. Mm-hmm. J'aime beaucoup.
Oui, oui, oui.
Ça va être une très bonne addition si jamais on est capable de le mettre dessus. Puis non, je le vends pas au club, le mien, je le garde.
Je suis pas surpris.
On passe à Nathan. Nathan va nous parler de nouvelles classes de Donjons et Dragons.
Plus des changements à des classes déjà existantes. Oui, ils ont pas ajouté de nouvelles classes...
Oui, effectivement. Mais remise en contexte, là, à peu près 8 semaines, ils ont publié le nouveau Player's Handbook. D'ailleurs, ils ont publié le nouveau Dungeon Master Guide il y a à peu près 2 semaines.
Il sortait pas en fin novembre?
Il sortait à l'Halloween.
Ah, OK, oui, c'est vrai. Oui, c'est fin octobre, puis c'est le Monster Manual qui arrive fin novembre. C'est vrai.
Fait que, puis ben, on a commencé à regarder ça pour vous, puis on voit highlight les grosses différences, puis plus on le regarde...
Plus je suis déçu.
Plus on est déçu, effectivement. Il n'y a pas 36 façons de le dire. Fait que Nathan, on commence avec le barde.
Le barde, donc, le membre artistique de votre groupe, que ce soit du chant, de la danse, des poèmes, de la musique, le barde s'en occupe. Et en fait, c'est sa principale interaction, c'est qu'il va... Toutes ces habiletés, tous ces trucs sont en lien avec l'art.
Le barde va souvent être aussi le porte-parole du groupe.
Oui. C'est lui ou le warlock. Donc, tu sais, c'est... Dans les deux cas, t'es pas certain que tu veux que ce soit lui qui soit en avant. Mais bon. Il y a la grosse blague que le barde est aussi une machine à séduction. Mais bon, ça, c'est... je crois que Critical Role a un gros mot à dire sur cet aspect-là du barde.
On va dire qu'il y en a un qui est assez légendaire, qui s'appelle Scanlin, qui
Exactement.
A fait monter le rating parental de cette série-là beaucoup.
Ouais. Voilà. Donc, pour ce qui est des changements, je vais partir avec la caractéristique principale du barde qui s'appelle le Bardic Inspiration, donc l'inspiration du barde, qu'on pourrait traduire en français. Quand même un changement qui est majeur, donc... dans la 5e édition, ça durait uniquement 10 minutes et tu pouvais utiliser le dé d'inspiration après avoir lancé ton jet, mais avant de savoir si tu passais ou échouais ton jet.
Quand tu obtiens un 4, ben, tu sais que tu n'es pas pour réussir, ça ne sert à rien de l'utiliser. Quand tu obtiens un 26, tu sais que tu vas réussir, pas besoin de l'utiliser. Mais quand tu obtiens 15, 16, que tu n'es pas certain, ça peut valoir la peine.
Exactement. La nouvelle utilisation, dans la nouvelle édition, on a passé le temps à 1 heure au lieu de 10 minutes. Donc, tu as ton dé d'inspiration pendant 1 heure. Ce qui est quand même
un petit peu plus solide.
Sauf que l'autre petite différence, c'est maintenant tu peux l'utiliser uniquement si tu as échoué le jet.
OK.
Le maître du jeu te donne le résultat avant que tu lances ton dé.
Fait que si le maître de jeu, tu dis, j'ai eu ça, j'ai eu 14. Veux-tu utiliser ton inspiration bardique?
Ah non, non, non. C'est... Si tu dis, tu échoues, veux-tu utiliser ton inspiration bardique? Donc, le joueur est au courant que son jet a échoué.
Donc, tu vas jamais l'utiliser alors que tu réussissais déjà.
Exactement.
Tu peux pas aller à la pêche au critical hit.
Exactement.
Surtout quand on a avantage. Ça peut valoir la peine si on a un bardic inspiration en banque, puis on lance 2d20, puis on a vraiment besoin du crit. Sauf ce qu'on peut plus faire maintenant.
En fait, même à l'époque, avant le Bardic Inspiration, c'était juste un dé supplémentaire que tu roulais pour augmenter tes trucs, fait que ça t'apportait pas de critique quand même. Là. C'est pas un, c'était pas une façon d'obtenir des critiques. Donc, les niveaux d'expertise. Donc, l'expertise, c'est quoi? C'est quand tu es un expert dans un domaine, tu fais juste être plus expert dans ce domaine-là. Donc, c'est tu doubles ton des expertises.
Dans le jeu, la mécanique d'expertise, c'est que vous avez un plus à vos skills puis vos saves en fonction du niveau que vous avez. Là, ce niveau-là, ce plus-là est doublé.
Ce qui est quand même très, très fort. Ils ont enlevé un truc que je trouve un peu décevant, c'est qu'ils ont enlevé la statistique qui s'appelle le Song of Rest, que les bardes pouvaient utiliser en short rest pour ajouter un dé supplémentaire quand les gens soignaient en short rest. Eh bien, cette capacité-là a été enlevée du barde. Donc, le barde ne peut plus aider les gens à se reposer.
Cependant, le barde a encore accès aux soins de guérison.
Oui, ça oui. Pis mais c'était à part.
Ouais, puis tous ces sortilèges-là, les dés de contribution ont doublé. Fait qu'avant, si le sort de heal était 1d8 plus 3, maintenant c'est rendu 2d8 plus 3.
Oui, mais c'est qu'il avait accès au D8 ordinaire avant, plus dans les short rests, il rajoutait jusqu'à un D12 au D. Fait que tu sais, c'est quand même...
Considérant que dans la nouvelle version de Donjons Dragons, il y a beaucoup de mécaniques qui reviennent aux short rests, c'est sûr que les short rests allaient justement être beaucoup plus communs dans les aventures pour regagner nos compétences. Donc
ils conseillent de faire plus de short rests puis moins de long rests dans les aventures. Counter Charm, qui était une des spécialités du bard, c'est celui qui est le charismatique du groupe, donc il va pouvoir annuler les chances de charisme des gens. Dans la 5e édition, donnait avantage pour résister aux sorts de charme et aux sorts de peur. Et bien maintenant, le bard doit utiliser sa réaction pour permettre au joueur qui a échoué le jet de le relancer avec avantage.
Donc, il ne faut pas avoir utilisé sa réaction, se rendre là.
Exactement. Donc, ça, je trouve que ça balance quand même bien Counter Charm, parce que justement, si tout le monde
pouvait
le faire...
C'est plus juste pour toi-même.
C'était pas tout le temps pour toi-même. Okay, c'était pour tout le monde qui était à 30 pieds de toi. Mm-hmm. C'est juste que tu pouvais le faire autant de fois que tu voulais avant, puis tu commençais directement avec avantage. Alors que là, c'est si tu échoues, le bard doit utiliser sa réaction pour...
C'est une fois.
Puis c'est une fois.
Si t'as trois amis qui ont manqué leur jet de sauvegarde contre le charme ou la domination, tu choisis le 3 des qui va te faire le moins mal. Celui des trois qui va te faire le moins mal.
Ouais, parce que t'as juste une réaction par tour. Donc, après ça, il y a Magical Secret, qui est en fait, c'est que le bard pouvait aller se chercher deux sorts à trois niveaux différents dans n'importe quelle autre classe qui lance des sorts. Ça a été réduit à Bard, Cléric, Druid et Wizard. Donc, on a réduit. Et il l'a plus souvent, mais il y en a moins. C'est, au lieu d'être deux à tous les quatre niveaux, c'est un à tous les deux niveaux. Genre, ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est pas des gros changements, mais c'est quand même là. Et finalement, niveau 20, le Bard a maintenant accès à Power Word Heal et Power Word Kill automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin d'aller les apprendre. Et c'est toujours des sorts qui sont préparés, donc qui peuvent être utilisés.
Et qui prennent quand même la spell slot du 9.
Oui, qui prennent quand même la spell slot du 9.
Puis il est au niveau 9 ou il est au niveau 7?
J'ai pas été regardé là, à ce niveau-là.
Parce que il, normalement, c'est un sort niveau 7, je me trompe pas.
Oui, puis kill, c'est 9.
Kill, c'est 9, ouais.
Mais il y a un petit détail qui a été ajouté, c'est que là, maintenant, ton power word heal ou ton power word kill peut affecter une deuxième créature qui est à 10 pieds de la première. Donc, t'obtiens deux utilisations pour le prix d'une.
On mentionne Power Heal redonne tous les points de vie à une créature.
Et Power Word Kill, ben, ça tue une créature avec un certain, en tout cas, en dessous d'un certain nombre de points de vie.
Est-ce que le nombre de points de vie doit être total pour les deux?
Non, non, c'est deux sorts différents. Okay. C'est l'équivalent
de...
C'est
en bas de 100 points de vie. Hein. Je pense que c'est 99 et moins.
Je sais pas, je sais que dans la cinquième édition, c'était comme en dessous de 100. Mais là, j'ai pas été regardé. À revisiter. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de sorts qui ont changé, donc j'ai pas trop pris le temps de toutes les regarder. Et finalement, la dernière nouveauté du Bard, c'est le College of Dance, qui est la nouvelle subclasse du Bard.
Nouvelle école.
Qui est la nouvelle école du Bard. Et elle rend le moine complètement désuet.
Ah, je vois.
En fait, c'est basé tout sur les mêmes statistiques. Donc, tu vas avoir comme le moine puis le barbare en Unarmored Defense basé sur ta dextérité puis ton charisme. Et les dégâts de coups de poing vont augmenter avec tes dés de Bardic Inspiration. Ce qui fait en sorte que ton dégât maximum avec tes points ordinaires arrive deux niveaux avant celui du monk. Monk qui est spécialisé en combat corps à corps avec ses points.
Est-ce qu'il y a un avantage à jouer un monk par rapport à un bard de cette école-là?
Ça va être toutes les autres habiletés. Tu as plus de key points, donc tu as plus de possibilités de faire plusieurs coups dans un tour et tu as d'autres actions.
Le bard a quand même sa spell list.
Le bard a sa spell list. Le bard de l'école de la danse a deux nouvelles capacités, c'est-à-dire ajouter un Bardic Inspiration Dice sur les jets d'initiative du combat à toutes les personnes qui sont à 60 pieds de lui.
Bon, mais écoute, on va revenir de la pause en se plaignant de ce qu'ils ont fait au Bard. De retour en ondes à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avant de partir à la pause, on parlait de jeux de rôle et on était en train de se plaindre qu'ils ont trop boosté le Bard.
Oui, oui. En fait, c'est qu'ils ont... Les autres écoles de Bard sont à peu près identiques à ce qui était dans 5.0. Il y a juste elle que c'est comme, ben, si j'ai le goût de me faire un monk, je vais aller me faire un Bard à la place, puis je vais être plus efficace plus rapidement. Et je vais avoir la possibilité de lancer des sorts.
Je vois ça comme un band qui se promène dans des dive bars puis qui pogne des batailles.
Oui, oui.
C'est quand même un concept le fun, à part pour les pauvres petits monks qui, eux autres, se privent de tout, prient à journée longue dans leur monastère. Puis je pense que je préférerais être un bard.
Oui, oui.
C'est ça qu'on mentionne. C'est pas, juste pour spécifier, c'est pas que le bard est pas bon, au contraire.
Donc le monk est pas bon. Non, c'est juste que le bard offre plus de versatilité, je dirais.
Et là, on va passer au cleric, au prêtre.
Ben oui, donc... Le premier gros changement du prêtre, en fait, c'est tu n'obtiens plus ton domaine, donc le dieu que tu vas aller prier, niveau 1. Tu obtiens les bénéfices niveau 3.
Ce qui ne fait pas beaucoup de sens dans la...
Non, tu choisis quand même un dieu, okay. Mais tu choisis pas, t'as pas les bénéfices encore.
Le dieu ne te reconnaît pas avant le level 3. Là.
Exactement, ah, okay. T'as pas assez de prestige encore.
Ouais, okay.
Tu as quand même quelque chose au niveau 1. Qui est de choisir soit que tu es un cléric qui est plus au combat, donc tu sais, les prêtres de bataille, ou des prêtres qui sont plus des lanceurs de sorts, puis des qu'on va considérer comme, tu sais, les soigneurs dans le groupe. Donc, mais c'est tes deux options que tu as au niveau 1. Et après ça, ben, il n'y a pas beaucoup de changements.
À part les sorts de guérison, les dés, là, qui deviennent donc utile
en combat.
Short de quand, ah ben il est à terre, il va mourir, moi m'assurer qu'il ne meurt pas. Là.
Un des gros changements, en fait, c'est ce sont les sorts qui sont préparés. Le cleric, en fait, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il prépare une quantité de sorts dans le jour.
Il y a une liste de sorts connus dans cette liste.
Oh non, ben, la liste de sorts connus des druides, des clérics, c'est la liste de sorts des clérics au complet.
C'est ça. Il y a sa liste, il en prépare dans cette liste-là. Ouais.
Avant, c'était le niveau du cleric plus ton modificateur de wisdom. Donc, ça l'augmentait quand même assez rapidement. Maintenant, ce sont des valeurs fixes liées à des niveaux.
Donc, si je gagne un point de plus en wisdom, puis mon ajustement passe de plus 3, plus 4, j'ai pas un sort de plus.
Non, exactement. Mais par contre, à la fin, rendu niveau maximum, ben, tu vas être à 22 sorts préparés au lieu de 25. Ça, c'est pas une grosse différence, mais c'est quand même 5 sorts de moins, là...
Les sorts de prêtre sont quand même assez utiles. Fait que c'est des choix quand même à faire.
C'est des gros choix à faire, en fait. Et étant donné que là, ta subclasse, donc ton domaine, est pris plus tard, ils ont mis plus de trucs qui sont à l'extérieur de la domaine que tout le monde va obtenir, au lieu de toutes les lier à des domaines spécifiques.
Okay.
Donc, par exemple, des trucs plus puissants en lien avec leur dieu, tout le monde va les avoir, puis il y en a qui puis ça, t'as des spécificités de domaine. Une des grosses exceptions que j'ai, par contre, c'est qu'ils ont passé de 7 domaines dans le Player's Handbook de la 5e édition à 4.
Ah ben oui, parce qu'il faut qu'ils vendent des livres, donc ils vont les mettre dans les autres livres.
Ah, mais c'est parce que dans les autres livres de la 5e édition, ils ont tous 2-3 domaines différents de clériques en plus des 7 de base, là.
C'est quoi les 4 qui restent, là?
Là, j'ai oublié. Je sais qu'il y a Life.
J'imagine.
Ils vont pas y enlever, sauf que je me rappelle plus des autres.
Est-ce que Trickery est encore là?
Oui, Life, Trickery, War. Ça, c'est les 3 okay. que je me souviens. Donc, Life. Light. Le Light domaine, c'est celui.
Ben oui.
Donc, Lumière, Vie.
Fait que trickery, vraiment puis aligné war. Good, là, à part Trickery. Là,
Ben, je dirais, Light, Life, c'est aligné Good. Trickery, c'est aligné Chaotic.
Neutre
chaotique, ouais. Donc c'est comme plus vers l'autre côté. Puis War, ça dépend qui tu pries.
En effet, plusieurs dieux de la guerre avec plusieurs interprétations de comment ça fonctionne. Il y a des dieux de guerre lawful, il y a des dieux de guerre chaotiques.
Ben, il y a des dieux de guerre bons aussi, c'est juste que sont généralement moins tapés sur les gens et plus soignés sur le champ de bataille que de taper sur les gens. Mais je dirais que par contre, j'ai regardé rapidement là, tous les domaines et il n'y a pas beaucoup de changements sur ce que tu obtiens. Donc, c'est réellement comme. Il n'y a pas beaucoup de changements. C'est surtout les sorts qui vont avoir été changés parce que ben il y a eu un changement dans pratiquement tous les sorts de l'édition. Donc, je peux pas rentrer dans les détails dans les 5 minutes qui me restent. Là, pour ça, j'ai pas la possibilité.
Pour un maître de jeu qui voudrait adapter 5.5 dans son setting, vous avez donc des devoirs à faire de vous créer là, ou de récupérer des domaines. Là.
Oui, c'est...
On tient à le rementionner que officiellement selon Wizards of the Coast, toutes les classes et les domaines de la 5e édition peuvent être transférés avec des mécaniques qui vont être implémentées dans la nouvelle édition.
Ouais, ça, c'est grosso modo, va prendre les sorts de la 5.5 si tu les as, mais si tu vas adapter un sort de la 5e édition, ben tu peux faire tel changement au sort, puis ça va être l'équivalent de l'adapter, ou tu peux faire tel changement sur la création d'une classe ou d'un personnage en particulier pour l'adapter. Donc, il vous donne les outils pour adapter, mais c'est pas nécessairement facilement adaptable. Il y a eu une partie de travail du DM avec l'aide des joueurs, je dirais. Les joueurs doivent donner un coup de main s'ils veulent adapter une classe qui n'est pas accessible, une race qui n'est pas accessible encore ou tout autre ajout.
Est-ce que l'Artificer a été rentré dans les classes de... Non, c'est ça. Hein?
Non, non.
C'est une classe assez populaire, l'Artificer. Fait que
parce que l'Artificer a été la première épisode et j'ai commencé par le barbare. Donc,
Oui, c'est ça. Ah non, on y va en ordre alphabétique. Ouais. Fait que...
C'est ça. J'ai été très, très, très déçu de ne pas voir l'Artificer qui était présent parce que l'Artificer apporte une versatilité, je dirais, pratiquement proche de celle du Wizard. Autant que tu peux faire un tank en frontline en armure que tu peux faire un gars qui fait des potions puis qui soigne les gens. Ouais. Ou tu peux faire un gars avec un canon qui fait comme du dégât à distance.
Ça pourrait être là, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de choix là, qu'on peut aller chercher avec cette nouvelle classe-là, même si c'est un spellcaster, un demi-spellcaster.
C'est un full spellcaster. Il y a la même spell list que les full spellcasters. C'est juste qu'il y a des bonus en plus puis il peut faire des items magiques.
Ça va jusqu'au sort niveau 9?
C'est un demi-spellcaster. Mais tu sais, c'est juste parce que si on veut faire nos geeks un peu, j'avais fait un test avec un Artificer 34 de AC, niveau 10.
Bon oui. Pas de...
Donc tu sais, c'est pas de modificateur tant que ça, rien. Là, c'est juste de modifier ton armure avec tes items magiques.
Un niveau de paladin pour avoir le sort Compelled Duel.
Ouais.
Obliger le duel.
Et voilà, tu viens de régler tous tes problèmes de combat.
Donc quand ça prend 34 à l'ennemi pour te toucher, avec un D20 qui roule jusqu'à 20, ça devient difficile.
Ben, on prend que le 20 critique touche automatiquement, oui, donc ça fait une chance sur 20 de toucher.
C'est ça.
Ça devient complexe.
Tu vas jamais toucher, puis quand tu vas te faire toucher, ça va faire mal.
Ah oui, et cette armure-là est basée sur ton intelligence, donc t'as pas à monter de stats en strength ou en consti pour avoir cette armure-là. ou en Dex non plus.
On va parler c'est JRSS un petit peu, Hugo. Mm-hmm. Nos activités d'automne sont en train de wind down. La période d'examen s'en vient.
Oui, on demeure avec nos activités du mercredi soir. Si jamais les jeux dont on vous parle vous inspirent, ça vous tente de les essayer pour vous-même ou de venir les essayer avec d'autres personnes, vous pouvez toujours passer, venir louer des jeux ou venir y jouer les mercredis soirs. La fin de semaine passée, on avait eu une journée complète de jeux de société. La prochaine va cependant aller...
C'est les portes ouvertes en février, si je ne me trompe pas.
Au retour des fêtes.
Mais entre-temps, marquez votre calendrier le 7 janvier, soirée GM Joie. Si vous voulez partir une nouvelle campagne de jeux de rôle ou si vous cherchez une campagne à intégrer, c'est le meilleur moment. Mmh. Et d'ici là, ben oui, toujours les mercredis, puis on est toujours ouvert. Si vous voulez organiser des activités là, en dehors de notre séquence habituelle, là, vous avez besoin de support, de locaux ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à nous rejoindre. On est là pour ça. Mm-hmm. Alors, vous avez entendu l'annonce tantôt, sinon je la répète. facebook.com/groups/CJRSS.
Mm-hmm. Et sur ce, eh bien, on vous souhaite une excellente semaine et on...
Une bonne fin de journée aussi.
On vous revoit la semaine prochaine.